Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Aujourd'hui se réunissent à Paris et pour toute la semaine les membres de l'IBES, cette plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité qui a pour mission de dresser un état des lieux de la biodiversité dans le monde. Il est probable qu'au cours des débats, les pesticides seront à nouveau pointés du doigt, accusés d'impacter nos écosystèmes. Alors parmi ces pesticides, il en est un dont le nom résonne plus que tous les autres, c'est le glyphosate. Depuis le 1er janvier, les particuliers ne peuvent plus l'utiliser, alors soit, mais comment le remplacer ? Bonjour Xavier Rebout.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en agroécologie à l'INRA de Dijon. Alors c'est très bien de se passer du glyphosate, mais une fois qu'on s'en passe, on le remplace par quoi ?
Alors, c'est une question qui revient souvent sur le devant de la scène. Eh bien, on savait cultiver sans le glyphosate avant, en utilisant notamment le travail du sol, le labour, en cultivant des espèces végétales plus variées, plus diversifiées. Et puis en utilisant pour les jardiniers, par exemple, le paillage sous les pieds de tomates.
Et alors ça peut vraiment être efficace. Est-ce que ça suffit? Parce qu'on a vu qu'il y avait des alternatives. Alors parfois, les alternatives sont, sinon, pires que le mal, du moins aussi pires, entre guillemets, Xavier Rebout.
Alors c'est une question importante, effectivement, c'est la praticité des alternatives. Mmh. Disons qu'il y a déjà un quart et un tiers des agriculteurs qui se passent régulièrement du glyphosate tout en n'étant pas forcément en agriculture biologique, et donc ils montrent que c'est possible. En revanche, ils se sont organisés pour ça, et notamment ils ont fait évoluer leur parc de matériel, ils ont notamment des tracteurs plus puissants et de quoi travailler le sol. Et puis, ils se sont organisés aussi en termes de déroulement des chantiers pour pouvoir mieux étaler les interventions sur les parcelles et donc se passer du glyphosate. Car la contrainte du glyphosate, c'est avant tout une contrainte d'ordre organisationnel et économique.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que le glyphosate est l'herbicide qui actuellement, depuis qu'il est tombé dans le domaine public en 2000, la solution qui présente le meilleur compromis d'efficacité pour le désherber et de coût et de praticité. On peut utiliser un pulvérisateur et ça permet d'intervenir à 12 km/h avec un tracteur et des rampes de grande taille, ce qui fait que en termes d'organisation, les chantiers sont beaucoup plus pratiques avec un herbicide qu'avec les techniques conventionnelles.
Et alors, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager un produit biologique qui aurait exactement la même efficacité que le glyphosate ?
Alors, il y a peu de chances. Évidemment, les chercheurs sont très intéressés à travailler cette question. Elle est traitée dans le monde entier. Le glyphosate a 50 ans. En fait, il est unique par beaucoup de caractéristiques. Notamment, il est le seul à avoir la triple caractéristique de toucher toutes les espèces végétales. On dit qu'il est total. Il migre dans la sève de la plante, des feuilles jusqu'aux racines, donc on dit qu'il est systémique et il permet de tuer les espèces vivaces telles que le chardon. Et enfin, il n'a pas d'activité herbicide rémanente, c'est-à-dire qu'en fait, on peut semer sans danger le lendemain d'avoir utilisé ce... Voilà. Donc peu de molécules auront ces caractéristiques-là, ce qui fait qu'actuellement, pour les particuliers, ce que l'on propose en alternative au glyphosate pour désherber les allées ou pour leur jardin, ce sont des acides naturels qui sont partis des produits de biocontrôle ou des substances jugées peu préoccupantes telles que l'acide acétique par exemple.
Mais alors évidemment ça marche moins bien, c'est-à-dire que ces produits n'offrent pas, Xavier Rebout, les mêmes caractéristiques que le glyphosate.
Exact, et en plus elles sont plus chères pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les particuliers comme les professionnels.
Bon alors aujourd'hui l'enjeu c'est d'accompagner les agriculteurs, donc les professionnels, mais aussi les jardiniers amateurs vers une sortie du glyphosate.
Oui, c'est exact. C'est sans doute un emblème de l'agriculture intensive construite sur l'usage de la chimie. Et donc c'est un modèle d'agriculture qui est très efficace, mais qui n'est pas durable, notamment vis-à-vis de la biodiversité. Et donc il y a une volonté générale, y compris chez les agriculteurs, de modifier nos systèmes de culture, mais c'est difficile. Pour accompagner les démarches des agriculteurs, je pense qu'il est important de rappeler un chiffre, c'est que en 2016, la Mutuelle Sociale Agricole avait regardé quel était le salaire moyen d'un agriculteur, et le chiffre était de 350 euros par mois, là où le revenu, le RSA est en 2019 de 550 euros par mois pour une personne seule.
Donc un revenu inférieur au RSA pour un agriculteur.
C'est ça, et donc vous voyez qu'en fait la société française, mais plus largement à l'échelle du monde, envoie un drôle de message quand Elle envoie à ceux qui la nourrissent et travaille souvent près de 70 heures par semaine pour ça, qu'on peut gagner plus à ne pas exercer son métier.
Oui, c'est effectivement un chiffre tout à fait stupéfiant. Alors, et aujourd'hui, s'il s'agit de produire sans glyphosate, on comprend bien, donc au-delà de ce chiffre, qu'il va falloir que quelqu'un paye. Alors, ça ne peut pas être les agriculteurs, donc on imagine que ça va être les consommateurs qui vont finalement devoir payer une agriculture qui sera probablement plus exigeante en main-d'œuvre.
Alors c'est là aussi c'est important de rappeler peut-être un chiffre. En 1953, un ménage français dépensait environ la moitié de son salaire pour son alimentation. En 2019, on s'approche de la barre de 10% environ. Et donc il y a bien une forme d'incohérence à vouloir que les produits agricoles coûtent moins cher et à refuser aux agriculteurs le système incentive qui permet cette productivité. En agriculture biologique, on est presque sans pesticides et les alternatives sont largement mobilisées, notamment celles que j'ai mentionnées tout à l'heure de travail du sol, par exemple. Et les prix agricoles sont un peu plus importants, dans une fourchette de 25 à 40%, par exemple. Et les rendements à l'hectare sont un peu plus bas, sans doute autour de moins 20%.
Donc c'est tout à fait possible.
C'est un modèle agricole français qu'il faut qu'on change. Pour arriver à ça, il est nécessaire que tout le monde participe, car le glyphosate, c'est pas qu'une affaire d'agriculteur, c'est un choix de société.
Un choix de société, ça on l'a bien compris, Xavier Rebout. En guise de conclusion, quelles sont les cultures qui vont être les plus complexes à mettre en œuvre sans glyphosate ?
Alors nous avons dans un rapport que nous avons écrit pour les ministères qui nous avaient fait cette commande en 2017, un rapport de l'INRA que l'on peut trouver sur Internet, nous avions essayé de regarder quelles étaient les impasses et nous avons trouvé quelques situations où il serait plus difficile que dans d'autres de se passer du glyphosate. Il y a par exemple les zones qui sont très pierreuses ou qui sont très en pente et pour lesquelles le travail du sol va générer un risque accru d'érosion des sols, qui peut poser des problèmes, et donc ce que l'on peut gagner d'un côté, on risque de le perdre de l'autre. Et puis il y a d'autres situations où les agriculteurs se retrouvent tout seuls dans des grandes exploitations. À cause de l'utilisation du glyphosate, ils ont renforcé leur fragilité, et en fait, dans les organisations de leur chantier, ils se retrouvent coincés s'ils ne peuvent pas avoir du personnel. Or, ils n'ont pas toujours, on l'a vu tout à l'heure avec les 350 euros à l'hectare par mois,
des ressources,
pas toujours les moyens financiers de pouvoir prendre du personnel.
Merci beaucoup Xavier Rebout. Je rappelle que vous êtes chercheur en agroécologie à l'INRA.